Cours de philosophie, première par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 29 novembre 89.
Je reviens encore sur la question de l'un et du multiple rapidement, puisque nous l'avions traité un peu l'année dernière. L'un, si j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que l'un, c'est la négation. Être divisé. C'est pour ça que l'un implique la négation de la division. C'est donc pas immédiatement le point de vue de l'être qui est impliqué dans l'un. C'est bien l'être individu. C'est l'être plus la négation de la division. C'est en ce sens que l'un n'est pas ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence. Et par rapport à Platon, au néoplatonisme, il faut bien comprendre l'erreur qu'ils font quand ils disent que l'un est plus premier que l'être. Puisqu'ils considèrent que l'un est ultime. Donc, il est ce qui est premier et dernier. Pour eux. Pourquoi, de fait, on ne peut pas accepter cette position? C'est lorsque quand vous essayez de comprendre ce qu'est l'un, vous voyez que l'un implique donc toujours le point de vue de la négation. Les textes de saint Thomas sont très nets. Il serait intéressant du reste de les analyser, parce qu'ils sont très précis. Je vais vous en citer simplement quelques-uns. Thomas précise justement la convertibilité de l'être et de l'un. En commentant la métaphysique d'Aristote, saint Thomas souligne l'importance du problème de l'un et du multiple. Je cite « Il est nécessaire d'examiner si tous les êtres se ramènent à quelque chose d'un, ad aliquidunum ou non. » Et saint Thomas ajoute, en suivant le texte d'Aristote, qui est dans le Métaphysique Iocton, Aristote consacre tout un livre sur le point de vue du problème de l'un du multiple. Et saint Thomas ajoute qu'il n'y a pas de différence entre se ramener à l'être ou se ramener à l'un, ni qu'il diffère au trum fiat. Reductio ad ens vel ad unum. C'est la reductio. C'est intéressant du reste. Hein. Pas de différence de ramener à l'être ou à l'un. Puisque tout un, c'est de lui, tout un d'une certaine manière être, et que tout être est d'une certaine manière un. L'un comme l'être est attribué à tout, universellement et commune, et d'une façon commune. Il y a une extension semblable à celle de l'être. Extension partout où l'être est, l'un est. Partout où l'un est, l'être est. L'un ne peut donc pas être un genre, pas plus que l'être, puisqu'ils ont une extension qui est la même. Parce qu'il n'est pas attribué univoquement, de même, du fait qu'ils sont attribués universellement et communément, l'un et l'être ne peuvent être une substance subsistante. Donc vous voyez, le souci premier de saint Thomas, c'est de montrer la convertibilité de l'être et de l'un. Quand on dit convertibilité, on veut dire même extension et même compréhension. Et on est du côté de l'attribution. C'est un problème critique. Même extension, même compréhension. L'être est dit de l'être, ça veut dire l'un est dit de l'être et ne regarde en premier lieu, et regarde en premier lieu la substance. Mais il ne suffit pas de dire que l'un a une extension semblable à celle de l'être, il faut affirmer qu'ils sont convertibles. Chacun est dit un en tant qu'il est être. Précisons. Donc voyez bien, même extension et même compréhension. Est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux? Même extension partout où l'être est, l'un est. Ça, c'est l'extension. Il n'y a pas un champ particulier où on aurait l'être sans avoir l'un. C'est ça, la même extension. Mais si on pouvait découvrir un domaine particulier de l'être où l'un ne serait pas, il y aurait donc une extension plus grande de l'être par rapport à l'un. Ils ont même extension. Ceci relève presque du jugement d'existence. Chaque fois que vous dites « ceci est », vous pouvez dire « ceci est un ». Chaque fois que vous pouvez dire « ceci est en puissance », vous pouvez dire « ceci est multiple ». Chaque fois que vous pouvez dire « ceci est accident », donc être second, il est multiple. L'accident est nécessairement multiple. Il n'y a jamais un seul accident. Et l'accident est toujours relatif, donc il est multiple dans son être. Il est ordonné à la substance. S'il est ordonné à la substance, il est multiple dans son être. Il n'est pas un. Donc l'extension, c'est facile à comprendre. Je crois qu'on peut tous comprendre que l'extension est la même. La compréhension, c'est beaucoup plus difficile. C'est la signification. Quelle est exactement la signification de l'un par rapport à l'être? Alors, je continue ce petit raisonnement de saint Thomas. Dans son commentaire des métaphysiques, je vous le donne parce que comme il n'est pas traduit, pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu plus long. N'est-ce pas? Mais il faut le faire, c'est dans le commentaire de saint Thomas, chapitre, le livre 11. Précisons que si l'un et l'être sont identiques dans la réalité, dans le sujet, ils diffèrent par leur raison. Ça, c'est toujours ce que saint Thomas prend lorsqu'il regarde la convertibilité de certaines notions. On parle de la convertibilité de certaines notions, de certaines raisons. Donc on est dans un regard critique. Mais c'est tout proche du jugement d'existence. Mais ce n'est pas le jugement d'existence. Alors, ça te montre que dans l'ordre de l'exister, ils sont identiques. Partout où il y a le jugement d'existence de l'être, vous pouvez dire que c'est un. Mais d'autre part, vous signifiez autre chose en affirmant ceci est et en affirmant ceci est un. Le langage l'indique, mais il faut aller au-delà du langage et saisir la signification du langage. C'est en ce sens que saint Thomas dira que l'un ajoute quelque chose à l'être en tant qu'il exprime un mode particulier, que le nom d'être n'exprime pas. Le mode exprimé par l'un est un mode qui suit de façon générale tout être et lui ajoute l'indivision. Voilà ce que l'un ajoute à l'être, l'indivision. Cet être est indivis. L'être est indivis. Puisque l'un, comme l'être, se dit de diverses manières, voyons d'abord ces diverses manières, du moins celles qui concernent l'un considéré en lui-même, l'un percé. Considérer l'un comme tel. À la suite d'Aristote, saint Thomas distingue quatre modes principaux d'attribution de l'un. Et nous sommes dans l'analyse très méthodique de saint Thomas par rapport à l'un. L'un se dit d'abord du continu, soit d'une manière tout à fait générale, universellement, c'est-à-dire de n'importe quel continu, soit de ce qui est continu seulement selon la nature et non par violence, comme lorsqu'il y a intervention de l'art, ni par un autre mode de contact. Ce continu selon la nature est maximé continu. C'est le continu par excellence. Il est soit un tout uniforme, comme la ligne droite ou circulaire, soit un tout non uniforme, comme celui de deux lignes constituant un angle en lequel elles se continuent, notre saint Thomas. On pourrait dire un tout impliquant un certain ordre, comme dans les cristaux. De ces deux types de continus naturels, c'est le premier qui est le plus un. Donc, vous voyez, première constatation, première découverte de l'un, puisqu'on regarde les diverses modalités de l'un. L'un se dit du continu. Donc, universellement, tout continu est un. Parce que tout continu est indivis. Il n'est pas encore divisé. Le continu implique la quantité. Et alors, ce qui est intéressant là, c'est que saint Thomas souligne l'appartenance de l'un avec le domaine de la quantité. Parce qu'on cherche les modes de l'un, comme je cherche les modes de l'être. Quels sont les modes de l'être? Les dix prédicaments. Quels sont les modes de l'un? Le continu. Le continu, c'est la quantité prise d'une façon première. La quantité, c'est le divisible. Et dans le continu, il y a une certaine quantité qui implique une certaine unité. n'est pas une unité parfaite, hein, puisque le continu peut être divisé. Donc, c'est un individu, c'est un individu de fait. Donc, le continu, soit d'une manière tout à fait générale, soit de ce qui est continu seulement selon la nature. Le continu selon la nature, vous voyez, vous avez une certaine continuité en vous. Le continu du corps humain, du corps organique, c'est un continu naturel. C'est pas un continu artificiel. Si on vous coupe votre bras, vous dites « aïe ». On m'enlève quelque chose, on me mutile. Pourquoi ? Parce que les deux bras font partie de l'unité organique, de ce continu naturel. Prendre l'exemple du père de haut, la fleur, quand on la met dans le bouquet, on la coupe. Donc on la tue pour faire un bouquet. Parce que le continu de la fleur implique d'aller jusqu'aux racines. Le continu naturel. Donc il y a une unité. Une unité organique. On pourrait dire une unité organique. C'est le continu naturel. Mais il n'y a pas que le continu organique. Qui dit continu organique, dit continu chez le vivant. Mais il y a un continu dans les cristaux. Dans les pierres. La pierre a un certain continu, une certaine unité. Quand vous sculptez la pierre, vous savez bien qu'elle a un continu. Deuxièmement, l'un se dit du tout, ayant une certaine forme. Dans ce cas, celui d'un animal, par exemple, ou de la surface d'un triangle. L'unité provenant de la forme s'ajoute à l'unité de continuité. Donc, c'est l'un par rapport au tout. Le tout qui implique une certaine forme. Le cercle. Remarquez que le tout, selon la nature, implique aussi une forme. Enfin, c'est sûr. Mais je peux très bien le regarder uniquement comme continu. Si je le regarde comme tout. La raison de l'unité de ces deux premiers modes est que le mouvement de ce qui est continu est un et indivisible dans le lieu et le temps. Je cite ce texte de saint Thomas. Si donc un continu et un tout par nature est dit un, parce que son mouvement est un, il est manifeste que si un continu et un tout a en lui-même le principe de son mouvement, il sera le premier un dans la grandeur. C'est un texte très intéressant. Vous voyez, ces deux sont un en raison du mouvement. En raison du mouvement qui lui-même est un. Il n'y a pas de division. Et je prends du côté du mouvement. Le mouvement venant actuer. Troisième modalité de l'un. L'un se dit aussi de ce qui est un en raison, non pas de l'unité de son mouvement, mais d'une unité au niveau de la raison. De deux unités de fait au niveau existentiel. Et c'est pour ça que c'est le mouvement, puisque le mouvement est acte de ce qui est en puissance. Donc c'est le mouvement qui fait l'unité du continu et du tout. Puisque par là, on a de fait, de facto, une unité. n'est pas une unité parfaite, puisque c'est divisible. Tandis qu'au contraire, la troisième unité est une unité qui vient de la raison. Donc c'est au niveau de la ratio, par exemple. Ce qui est appréhendé par l'intelligence est une appréhension unique et indivisible. L'appréhension indivisible saisit en effet ce qui est un spécifiquement et numériquement. On a donc là une unité quantitative, si vous voulez. La quidité possède son unité. L'unité que nous saisissons quand nous définissons quelque chose. L'un se dit du continu et du tout, du singulier et de l'universel, comme espèce. Et cela parce que le continu, le tout, le singulier, l'universel, comme espèce, possède les uns et les autres une certaine indivisibilité. Donc on retrouve toujours cette même idée. L'un, une réalité est dite une, pour autant qu'elle est indivisible. C'est pour ça que saint Thomas dira que l'un est proprement l'être indivisible. Dernier lieu, saint Thomas va préciser ce qu'est cette ratio unius. Donc, quatrièmement, on va préciser la ratio unius. Qu'est-ce que c'est que l'un ? La raison de l'un, c'est l'indivisibilité. Commentant les noms divins, saint Thomas affirme que la ratio unitatis consiste en l'imparticipitas, car est un l'être qui n'est pas divisé et qui est indivisible. Dans la somme, saint Thomas va progressivement, pour préciser ce que c'est que l'un, comparant l'un à l'être, il dira très nettement que l'un ajoute à l'être l'indivision. C'est-à-dire la non-division. Alors je vous cite encore ce texte de la métaphysique. L'un est l'être non-divisé. Non divisum. Or, la division appartient à la multitude qui s'oppose à l'un. Il revient donc à celui qui considère l'un de considérer la négation ou la privation. Or, la négation est double. Il y a une négation pure et simple par laquelle on dit ceci n'est pas attribué à cela. Hoc non est illi. Il y a une autre négation au niveau du genre, ingénéré, par laquelle on ne nie pas quelque chose absolument, mais dans les limites d'un certain genre. Ainsi, aveugle ne s'applique pas de façon absolue, simplicitae, à ce qui n'a pas la vue, mais à ce qui, dans le genre animal, possède par nature la capacité de voir. Autrement dit, la négation où regarde l'être, où regarde la forme. Quand la négation regarde la forme, elle regarde uniquement une qualité. Quand la négation regarde l'être, elle est absolue. Deux types de négations qui font partie des manières différentes de voir les oppositions. Et par le fait même, vous avez deux types d'unités. Une unité qui va jusqu'à l'être, puisque vous niez la division dans l'ordre de l'être. Tandis que lorsque vous niez la division dans l'ordre de la forme, vous n'avez pas une unité absolue. Vous avez une unité dans l'ordre du continu, dans l'ordre du tout. Vous voyez la différence entre ces deux types d'unités. Alors ceci nous permet de comprendre, et c'est pour ça que Saint-Thomas fait cette analyse, l'erreur de Platon. Et ça, c'est très intéressant. Si l'un implique dans sa raison, donc dans la manière dont vous saisissez l'un, la négation, il y a donc un apport de l'intelligence pour saisir l'un. Je ne saisis pas l'un immédiatement dans la réalité. C'est l'intelligence qui ajoute la négation de la division par rapport à la réalité. Mais l'être est donné immédiatement. Primo cadit in intellectus. C'est ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence. Tandis que l'un n'est pas ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, puisque l'un implique la négation de la division. Si l'un implique la négation de la division, il implique donc un apport de l'intelligence. Je ne saisis plus la réalité directement et immédiatement, mais je la saisis enveloppée de ma négation, par ma négation. C'est donc pas seulement la réalité, mais c'est en plus de la réalité la négation de la division. Ce qui montre immédiatement que si je fais de l'un ce qui est premier, c'est l'intelligence première par rapport à ma lecture de la réalité. Je saisis le réel à travers mon intelligence. Et vous voyez comment je passe à une vision idéaliste. Ça, je crois que c'est très important au plan critique de comprendre ça. Je le reprends pour que vous le voyez bien. Parce que ça, c'est au fond pour cela que saint Thomas, à la suite d'Aristote, essaie de bien comprendre qu'est-ce que c'est que la ratio onius. Ça, je crois qu'on peut tous saisir. Comparé à la ratio entis. La ratio entis est immédiatement saisie par mon intelligence. Cette première affirmation, primo cadit in intellecto ens. Et ceci repose sur l'expérience, jugement d'existence. Ceci est. Donc, c'est le jugement premier. Saisit la ratio entis, c'est-à-dire l'ens. Parce que le saisir comme ratio entis, ça présuppose toute une réflexion ultime. Mais je saisis en premier lieu ens. Je ne saisis pas en premier lieu l'un. Pourquoi ? La raison, c'est que la ratio entis implique négation. Or, la La négation, être de raison. C'est un être de raison, la négation. C'est un être que je forme en moi-même. Si donc l'un implique la négation de la division, nécessairement, c'est par l'intelligence qui nie que je saisis l'un. La réalité est donc enveloppée de l'opération intellectuelle qui divise pour que l'un apparaisse. L'un apparaît à travers mon opération intellectuelle. Il n'apparaît pas directement. Et donc c'est une lecture de la réalité qui commence par le sujet, c'est-à-dire par mon opération intellectuelle. Et c'est par mon opération intellectuelle que je saisis la réalité. C'est donc l'idée et la négation qui est première. Et ce n'est plus l'être. L'être dans son objectif. C'est à partir de là que je ne peux plus saisir directement et immédiatement le réel. C'est cela qui me semble important à souligner. C'est que si je mets l'un avant l'être, nécessairement, je suis conduit vers des idéologies. J'allais dire, toute idéologie mais un primat de l'un sur l'être. Et ceci parce que la ratio unitis implique la négation de la division. Parce que la ratio unius, je veux dire, implique la négation de la division. Il faut réfléchir là-dessus. C'est très simple, hein, parce qu'on est en face d'une donnée tout à fait primordiale. C'est très très simple. Et on voit le souci de saint Thomas, vous voyez, et le souci d'Aristote. Critiquer Platon, c'est comme pour nous critiquer Hegel. C'est au fond très difficile, étant donné la séduction énorme de Platon, étant donné la séduction énorme de Hegel. Il s'agit de saisir le plus loin possible le moment précis où on diverge. Platon est un génie, Hegel est un génie. Ça, c'est évident. Tous les deux font quelque chose de grandiose. Le pied d'argile, la grande statue. Hein? L'argile et le fer, vous êtes bien remarqué. Hein? Il y a une complexité, ce n'est pas simple. Il dit si bien dans le texte, le point de vue de l'argile et le fer ne peuvent pas se combiner parfaitement et faire l'unité. Ça reste quelque chose de collé. Et toute la grande statue, même s'il y a de l'or, même s'il y a du bronze, même s'il y a de l'argent, ne tient pas, pied d'argile. Ah, ça c'est très intéressant de voir toute la grande construction de Platon repose sur une erreur. Le primat de l'un sur l'être. Et comment critiquer ça? C'est très bien de dire le primat de l'un sur l'être, mais pourquoi pas l'un avant l'être? Pourquoi pas l'un avant l'être? Ah, je ne peux pas mettre l'un avant l'être. Parce que l'un ajoute quelque chose à l'être. L'argile. Ça ajoute quelque chose. Qu'est-ce que ça ajoute? La négation de la division. Or, la négation de la division, où est-ce qu'elle est? Dans mon intelligence. Et donc, c'est une lecture du réel qui se fait par la négation de l'un, par la négation de la division. Et donc, qui se fait par mon opération intellectuelle. Mon opération intellectuelle est comme un prisme qui me permet de lire le réel. Et donc, je n'ai plus le réel qui se donne à moi immédiatement. Tandis que quand je saisis ce qui est, l'être se donne à moi immédiatement. Pas d'intermédiaire. À partir de là, je peux comprendre que dans certains domaines, l'un apparaîtra avant l'être. Quels sont ces domaines? Je peux le dire directement, une fois que j'ai compris ça. Une fois que j'ai compris que la raison de l'un ajoute quelque chose à la raison de l'autre. La négation de la division. Une fois que c'est dit, c'est très simple, il faut le découvrir. C'est très très simple, j'ai vu ça, je vois. Je comprends tout une fois que j'ai dit ça. C'est pour ça que je voulais que vous reveniez sur ce texte de saint Thomas. Parce que là, on voit la subtilité de saint Thomas. Il a tout de suite compris le grand danger de Platon et du néoplatonisme. Ce que saint Augustin ne dit pas. C'est pour ça que c'est très bien saint Augustin, je l'aime beaucoup. C'est un grand mystique. Mais il ne suffit pas. Il ne suffit pas. Il permet d'étendre la pensée de saint Thomas magnifiquement. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que tant qu'on n'a pas vu ça, on risque toujours de se laisser séduire par Platon, Plotin, Hegel. La grande séduction. La grande séduction ancienne et contemporaine, et qui sera toujours la séduction pour l'homme, tout le temps. Alors, pourquoi ce sera toujours la grande séduction de l'homme? C'est parce que dans la connaissance artistique, l'idée est première. L'idée. Un artiste voit tout à travers son idée qui mesure tout. Sa référence sera son idéa. L'idéa d'une crèche, c'est une idéa, la référence. Alors vous contemplez la crèche à travers votre idéa. C'est vrai. L'idéa d'un cinéma, vous contemplez à travers votre idéa.
C'est quand même l'idéal d'un autre.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est quand même
l'idéal
d'un autre.
Mais c'est l'idéal de moi.
C'est l'idéal d'artiste qui a fait.
Mais oui. Mais oui, mais je parle pas. Attention, je parle pas de l'idéal d'un autre. Je parle de mon idéal.
Quand vous faites une crèche, par exemple.
Mais oui. C'est votre idéal. Vous voyez? C'est pas l'idéal d'un autre. C'est votre idéal. Le philosophe. C'est sa philosophie. Donc, l'idée est première. Et l'idée est une. Parce qu'elle est mesure. Oui. Et alors, dans l'ordre artistique, l'idée est première et c'est l'un qui est premier. Qui commande tout. On voit très bien que si l'un est premier, ma philosophie sera nécessairement une philosophie artistique, au très grand sens. Hein. Je construirai et je ne contemplerai plus. Je construirai. Évidemment, je peux contempler quand c'est terminé. très difficile. Je suis un peu esclave de mon idéa. Et je contemplerai en critiquant, qui n'est pas une contemplation. Et je reviendrai toujours à critiquer, mais il n'y aura pas une contemplation indépendante de l'œuvre que j'ai faite. C'est pour ça que c'est capital, ça. C'est très important de saisir ça. Il y a là un moment, au point de vue métaphysique, qui, je crois, est très important. Mais il fallait d'abord saisir ce qu'est l'être, pour comprendre que l'un ajoute quelque chose à l'être. Et alors, j'ai donc le primat dans l'idéologie d'une philosophie artistique ou d'une philosophie logique. Pourquoi ? Parce qu'en logique, c'est l'universel qui est premier. Or, l'universel, c'est l'un lié au multiple. L'universel fait la synthèse de l'un et du multiple. C'est merveilleux. La synthèse du singulier et du multiple. Voilà les deux grandes tentations d'une philosophie idéaliste. Ou plus exactement, voilà comment je glisse dans une philosophie idéaliste, par le primat de l'un sur l'être. Alors, la victoire de la métaphysique, c'est de dire que l'un est propriété de l'être. Là, on écrase l'infâme. Mais c'est la grande victoire de la métaphysique, c'est de dire l'un a collé. Tu veux passer devant, mais non, tu es toujours derrière. L'un acolyte de l'être. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. De pouvoir dire ça en toute vérité, hein, c'est-à-dire en comprenant bien ce qu'on dit. Propriété. Et comment je peux dire que l'un est propriété ? Parce qu'aussi, en mathématiques, l'un sera avant l'être. Et les mathématiques n'étant pas la philosophie, je ne le dis pas tout de suite, mais en mathématiques, l'un est avant l'être, ça c'est sûr. Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que quand on fait les recherches des principes de l'être, on est surtout motivé par le problème de l'homme ?
Oui, on peut être motivé, mais on le dépasse. Oui, l'un est le lieu de toutes les séductions. Si l'un est le lieu de toutes les séductions, on sera motivé par cela. Parce qu'on est des êtres sensibles. Sensibles à la séduction. Séduction intellectuelle, séduction sensible. Il y a une séduction terrible de l'un. Vous voyez ? Donc je suis tout à fait d'accord. Parce que l'un va servir, va jouer un rôle très important dans l'induction, par exemple.
Mais pas pour la substance,
tout à fait. Mais je l'induis par là. Mais la substance n'est pas l'un. Elle est principe. Alors quelle différence est-il entre un principe et l'un ? Vous voyez ? Mais je suis tout à fait d'accord que ça joue un rôle très très important. Ne pas sentir la séduction de l'un, c'est être un peu aveugle pour la philosophie. Sentir la séduction de l'un, c'est excellent. Mais il faut être séduit et dépasser la séduction. Donc rechercher le principe. Mais c'est très important et très curieux de saisir ce que peut représenter cette séduction de l'un. En tant qu'artiste, en tant que logicien, en tant que mathématicien. Tout ça, ça se tient un peu, vous savez. Matheux, l'artiste, le logique. C'est pas la même chose, hein. Je ne mets pas du tout dans le même panier la logique et les mathématiques. Mais il y a une parenté. C'est la primauté de l'un. Alors il y a une grande séduction là. séduction artistique. Oui, le mot, c'est là dans la forme. Alors là dans la forme, la splendeur de la